Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Sophie Malibaud.
Guillaume Meunier.
Bonjour, soyez les bienvenus au Carrefour de l'Europe. Nous revenons aujourd'hui sur une affaire qui fait couler beaucoup d'encre, suscite fantasmes et inquiétudes de part et d'autre de l'Atlantique. Il s'agit des négociations entamées en 2013 entre l'Union européenne et les États-Unis, puisqu'un nouveau round de discussions vient de se tenir sur le partenariat transatlantique pour le commerce et les investissements. Et déjà une nouvelle session de discussion se prépare, mais tout cela se fait sans que les opinions publiques ne saisissent vraiment les progrès ou les reculs. Le dossier est ultra sensible, la négociation est dure et la transparence des pourparlers toute relative. Alors qu'avons-nous à y gagner? Que risquons-nous d'y perdre? Nous tentons de faire le point dans cette émission grâce à la présence dans ce studio de l'eurodéputé Pervenche Berès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de la délégation socialiste française au Parlement européen. Nous sommes aussi en compagnie de Elvire Fabry, chercheur à l'Institut Jacques Delors. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Et puis Christophe Quarez, responsable syndical français à la Fédération Chimie Énergie de la CFDT. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes aussi le rapporteur d'un document qui vient de sortir sur les enjeux de la négociation du projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Ce n'est pas un rapport comme un autre, c'est en fait l'avis du Conseil économique, social et environnemental, une instance consultative saisie par le Premier ministre pour nourrir le débat sur ce partenariat transatlantique. Nous verrons quelles sont les positions que vous défendez dans le courant de cette émission, mais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne sur le caractère inédit de cette négociation. Certains parlent d'un accord de troisième génération pour dire qu'il ne s'agit pas d'un accord commercial au sens strict, mais d'une négociation plus large, au-delà de la baisse des tarifs douaniers, il y a tout l'aspect normatif. On parle de convergence réglementaire, on vise l'harmonisation des normes. Qui veut revenir sur cette conception de l'accord ? Pervenche Berès.
Oui, très volontiers, car je crois que c'est un des enjeux de cette négociation et un des points sur lequel les législateurs doivent être extrêmement vigilants. Jusqu'à présent, globalement, on a négocié des accords dits commerciaux, qui étaient des accords pour baisser les droits de douane.
Oui, entre l'Europe et les États-Unis, ils ont considérablement baissé. On est passé de 50 à quelques pourcentages, sauf dans certains secteurs.
Ça dépend des secteurs. Ouais. Donc c'est là où, sur ces secteurs, où il y a encore des petites choses à gratter, entre guillemets. Et donc on était dans des accords où il fallait faire baisser, d'une certaine manière, les barrières de protection. Mais là, on est dans une démarche totalement différente, puisque dans le langage classique, on appelait ça les barrières non tarifaires, c'est-à-dire quelles sont les législations de part et d'autre. Et ici, on est passé d'une logique de protection à une logique de précaution. Quelles sont les législations dont on se dote de part et d'autre pour permettre la commercialisation et l'investissement de tel ou tel produit.
Et c'est ce qui rend difficile pour les entreprises de pénétrer un certain marché
quand des
normes sont érigées.
Oui, mais c'est aussi ce qui correspond à ce qu'on pourrait appeler les préférences collectives de telle ou telle société. Et il y a un domaine dans la négociation avec les États-Unis qui est extrêmement sensible et très symbolique, c'est par exemple tout ce qui concerne la protection des données. En Europe, protéger les données, c'est protéger la liberté. C'est presque un droit absolu, un droit fondamental en tout cas.
La protection, vous voulez dire la protection des données personnelles,
individuelles, personnelles, ce qui fait votre liberté de penser, de conscience. Aux États-Unis, ça peut être considéré comme un bien commercial. Donc vous voyez que la préférence collective de part et d'autre de l'Atlantique a conduit à des conceptions de la société finalement beaucoup plus différentes sur certains aspects que ce qu'on pourrait penser. Mmh. Alors, on a trouvé des aménagements pour ne pas aller au cœur de cette discussion sur la protection des données, mais il y a beaucoup d'effets de la négociation qui pourraient fragiliser notre conception de la protection des données. Évidemment, c'est par exemple un des points sur lequel au Parlement européen, nous sommes très vigilants et alertés.
Alors, le fait qu'il s'agisse d'un accord de troisième génération, ça a des répercussions, Elvire Fabry. Est-ce que c'est ça qui implique qu'il s'agisse d'un accord qu'on appelle un accord mixte ou exclusif ?
Alors non, le fait que l'on se pose actuellement la question de savoir si le TTIP pourrait être un accord mixte qui relève de compétences qui sont partagées entre le niveau européen et le niveau national ou un accord exclusif qui relève que de la compétence de l'Union européenne et qui du coup impliquerait des procédures de ratification différentes soit simplement au niveau européen par le Conseil et le Parlement européen, soit également par les parlements nationaux. Ça relève, c'est une question qui est en effet liée au périmètre de la négociation. En l'occurrence, c'est pas tellement la question de la coopération réglementaire qui est impliquée, qui est concernée par cette décision. C'est plutôt un certain nombre de questions qui seraient liées au transport, à certains types d'investissements, propriété intellectuelle, et éventuellement à un chapitre concernant la corruption, qui est une des ambitions de la commissaire au commerce, Cecilia Malmström, d'introduire un volet concernant la corruption dans les nouveaux accords commerciaux et qui impliquerait à ce moment-là que ce soit un accord mixte. Mais
Parce que c'est des compétences qui relèvent encore de la compétence des États membres et qui n'ont pas été embarquées par la compétence de politique commerciale qui dépend du pouvoir de la Commission.
Alors, le fait est que si c'était un accord purement commercial, la question ne se poserait pas et ce serait forcément un accord mixte qui nécessiterait donc l'approbation ensuite des parlements nationaux.
Mais à vrai dire, comme pour le moment le périmètre de la négociation n'est pas complètement défini, on n'est pas en mesure de trancher encore véritablement si oui, non, ce sera un accord mixte. La question se pose aujourd'hui pour l'accord qui a été signé avec le Canada, qu'on appelle le CETA, accord bilatéral, qui devrait être ratifié au tournant de la fin de l'année 2016-2017. Il se pose pour d'autres accords, un accord qui a été signé avec Singapour, et la question doit être tranchée par la Cour de justice européenne aujourd'hui. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une question juridique qui dépend donc du périmètre d'une négociation, mais que le Conseil a également la possibilité de décider à l'unanimité qu'un accord doit être ratifié comme un accord mixte et donc impliquer une ratification des parlements nationaux.
Christophe Quarez.
Oui, sur ce point précis, au Conseil économique, social et environnemental, on a considéré que, compte tenu des enjeux, et cette fois-ci de la convergence réglementaire, parce que là on va parler des normes, et donc des enjeux sociétaux qu'il y a derrière, sur le principe de précaution d'un côté, réparation de l'autre côté, au niveau aux États-Unis, ils sont plutôt là-dessus, et donc les choix collectifs qu'on peut faire en Europe sur des normes environnementales, notamment phytosanitaires, etc., sociales, sont très sensibles d'un point de vue politique. Et dépasse, de point de vue du CESE français, largement le mandat exclusif de la Commission européenne par rapport aux enjeux purement commerciaux. On va bien au-delà. Et de ce point de vue, on considère que cet accord ne peut être que mixte et qu'il nécessitera de fait l'accord des parlements nationaux.
Et Père Vanche-Berès, juste vous qui êtes députée européenne, comment vous le vivez, le fait que vous allez faire un travail, on va vous consulter, puis derrière, on va retourner consulter les parlements nationaux. Ça diminue l'enjeu de votre travail ?
Non, je pense qu'il y a suffisamment de travail sur une négociation de ce type pour tout le monde. Simplement, ce qui est important, c'est que ça signifie qu'au fond, quel que soit le résultat de la négociation, le moment où cette négociation pourrait déboucher, il y aura en réalité trois verrous. Le premier, c'est une fois que la Commission aura fini de négocier, enfin que les négociateurs américains et européens auront conclu l'accord, l'obligation pour chaque chef d'État et de gouvernement d'engager la signature de son pays. Ensuite, le verrou du Parlement européen qui devra être consulté et qui peut dire oui ou non à l'accord. Puis la troisième chose, c'est ce verrou qui pourrait venir des parlements nationaux. Et encore une fois, prenez par exemple l'affaire des OGM. Je suis sûre qu'on va en reparler. Mais l'affaire des OGM, on voit bien que d'une certaine manière, la législation qui a été mise en place au niveau européen laisse les États membres le droit de décider. Et si l'accord porte sur l'affaire des OGM, sur une législation en matière d'OGM interdite ou non, eh bien, il n'y a pas une compétence absolue de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas été en situation de dire les OGM sont permis ou les OGM sont interdits. Elle a ouvert des espaces pour que chaque État membre puisse choisir. Mmh. Donc, c'est un très bon exemple qui dit que si l'accord porte là-dessus, ça sera difficile que ce soit uniquement le Parlement européen qui se prononce.
La position de la France, c'est vraiment de toute façon de défendre la mixité de cet accord, le fait de pouvoir se prononcer à l'échelle nationale.
C'est ce qu'a dit Matthias Fekel.
Tout à fait. Matthias Fekel l'affirme haut et fort. Mmh. Est-ce qu'il est suivi par les autres membres de l'Union européenne ?
Oui, il y a une forte demande dans différents États membres.
Fabry.
Il y a une beaucoup plus forte mobilisation des citoyens qui s'inquiètent. Ils sont concernés de beaucoup plus près par cette négociation que lorsqu'il s'agissait, comme vous le disiez tout à l'heure, d'abaisser les tarifs douaniers. Ça touche nos normes, ça touche nos préférences collectives. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment on va procéder dans le cadre de cette coopération réglementaire. Parce qu'il s'agit moins d'entreprendre, et c'est pas un big bang de coopération, d'harmonisation réglementaire. Ce qui est envisagé par la Commission européenne, c'est de travailler à niveau d'équivalence. C'est de travailler sur les écarts de réglementation. Lorsqu'il y a deux réglementations qui visent un même niveau de précaution, mais où la formulation de la réglementation a été élaborée de manière différente, à ce moment-là, de mettre en place un principe de reconnaissance mutuelle. Mais ça veut dire que finalement, cette coopération réglementaire, elle va être beaucoup plus limitée qu'on ne le pense. La Commission a quand même pris des engagements, justement, sur ces enjeux d'OGM, de poulet au chlore, montrant que ce qui est interdit jusqu'à maintenant sur les marchés européens ne serait pas davantage autorisé. Mmh. Et on voit bien que sur les enjeux sanitaires et phytosanitaires, tout ce qui est alimentaire, ça va quand même exclure une coopération réglementaire, alors, beaucoup de choses.
Si vous permettez, on reviendra un petit peu plus tard sur la méthode. Mais je voudrais revenir encore sur un autre aspect qui inquiète beaucoup les opinions, c'est le souci de la transparence. Alors écoutez ce qu'en dit Matthias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur. Il était sur notre antenne le 6 mars dernier dans l'émission internationale.
Il y a un problème de forme et il y a un problème de fond. C'est-à-dire que c'est des vieilles manières de négocier qui sont plus du tout adaptés à l'ère du numérique, à l'ère de Twitter, à l'ère où en réalité tout est public. À ma demande, puisque j'ai formulé ce souhait auprès des autorités américaines, des représentants du président Obama, il y a maintenant des salles de lecture pour que les parlementaires puissent aller consulter les documents en France sans être obligés d'aller à l'ambassade des États-Unis. Vous voyez un peu, franchement, ce que ça dénotait comme conception. Mais c'est un tout petit progrès, ça. C'est la possibilité. Et c'est très important que les parlementaires qui représentent le peuple puissent aller voir les choses, travailler sur les documents. Mais les conditions sont beaucoup trop restrictives. Moi, je suis, à titre personnel, favorable qu'il puisse y avoir sur ce sujet un travail d'open data. Parce que, en réalité, vous avez aujourd'hui 10, 15 000 parlementaires qui vont avoir accès à ces documents en Europe. Et vous avez, en vrai, les lobbies qui y ont accès. Mmh. Je considère, moi, que des négociations commerciales modernes doivent se faire sur la place publique, que des choses que vous ne pouvez pas assumer devant vos opinions publiques et devant les peuples est de toute façon mauvais, et que ce que les lobbies connaissent doit être connu par les citoyens, parce qu'on parle de règles, parce qu'on parle de choix de vie, qu'on parle de mode de vie et de décision démocratique.
Alors, en février dernier, par exemple, le 12e cycle de négociations s'est ouvert. Que sait-on des sujets mis sur la table? De manière générale, j'ai envie de vous demander, Christophe Quarez, comment est-ce que vous avez pu travailler au Conseil économique et social et environnemental pour concocter votre rapport? Vous disposiez des informations suffisantes?
Pas franchement, c'était une des demandes du gouvernement dans sa saisine. Il nous a interrogé sur 3-4 points. Le premier, c'est sur justement la transparence. Et la force est de constater que il y a eu un péché d'orgueil de la commission, en tout cas dans l'ancienne commission. On a mis plus d'un an avant de publier le mandat de négociation. Et ça a déclenché à juste titre d'énormes inquiétudes. Les opinions publiques, à juste titre, ont commencé à manifester leur inquiétude.
Ce mandat n'est public que depuis octobre 2014.
Depuis octobre 2014, alors que les négociations ont commencé en juillet 2013. Et donc, de fait, ça a créé un climat de suspicion tel que, bien sûr, la Commission essaie de rattraper petit à petit et d'ouvrir un peu plus sur la transparence. Mais cette faute de goût de l'ancienne Commission ne lève pas toutes les ambiguïtés. Et donc, il y a un vrai souci de transparence. Nous avons... Le seul document dont on a connaissance aujourd'hui, c'est le mandat de négociation et quelques informations partielles au moment des comptes rendus des différents rounds. C'est la raison pour laquelle une des préconisations du Conseil économique et social, c'est qu'on souhaite l'établissement, après chaque round de négociation, d'un tableau de bord qui précise chapitre par chapitre les états d'avancée de négociation, voir si les obstacles éventuels, les difficultés ou les avancées, en fonction du mandat de l'Union européenne. C'est une chose qui nous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas du tout, les comptes rendus ne sont très formels et très généralistes. On a beaucoup de mal à se faire une opinion de ce qui se passe réellement.
Et vous, Père Vange Berès, vous qui êtes député, vous en savez un petit peu plus?
Vous savez, dans l'ancien mandat, donc avant juin 2014, cette inquiétude, elle se manifestait déjà. Parce que, pour revenir au début de notre émission, la conscience qu'on était dans un accord d'un nouveau type...
D'une ampleur particulière.
Oui, mais pas que d'une ampleur, d'une nature particulière. Oui. Tant qu'il s'agissait de négocier des tarifs les uns contre les autres, qu'on ait une offre secrète pour se garder, une botte, négociation, etc. Je dis pas que c'est normal, mais... ça peut s'expliquer. Quand il s'agit d'aller sur quelque chose qui va vous obliger à modifier votre préférence collective et donc qui a un impact sur la législation que vous avez élaborée, là, ça peut pas être secret.
Oui, mais...
Parce que, je prends un exemple qui n'est pas d'actualité, mais pour expliquer. L'Europe a mis très longtemps à se mettre d'accord sur les pots catalytiques. Admettons que les Américains, tout d'un coup, nous disent qu'il faut changer les pots catalytiques, que c'est pas du tout le bon truc. Le législateur européen, qui porte la préférence collective européenne, ne peut pas être absent de cette affaire. Et moi, je me réjouis que la montée en puissance, grâce aux ONG, à la société civile, etc., fait que la dernière campagne des européennes s'est largement faite là-dessus, en juin 2014, et ça a permis de cristalliser la discussion, et ça a obligé la commissaire Malmström à changer un peu de pied par rapport à son prédécesseur, qui était un libéral arrogant, et qui a pensé pouvoir passer en force sans aucune consultation et sans aucune transparence.
Toutefois, on est dans le domaine du commerce, c'est très sensible. La confidentialité dans ce milieu-là, Elvire Fabry, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on abuse de la confidentialité ou est-ce que on peut pas comprendre que les États ont besoin de ça pour leurs opinions? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Je pense qu'il faut admettre que dans toute négociation, il est difficile de faire une transparence totale. Parce qu'il y a, quand même un enjeu de compromis.
Donc ce que dit le ministre, il faut mettre tout sur la table. Vous pensez que c'est trop?
Je pense que la transparence totale est un leurre dans une négociation commerciale comme tout autre type de négociation. Mais en matière de coopération réglementaire, ils sont en train d'évaluer ce qui est faisable. Pour le moment, ils en sont vraiment au stade encore de l'exploration. Il faut voir que ce ne sont pas les négociateurs qui ont ce chapitre entre leurs mains. Eux, ils vont se mettre d'accord sur des règles horizontales, sur la façon de procéder. Mais la coopération réglementaire, elle est entre les mains des régulateurs qui, eux, doivent explorer secteur par secteur, norme par norme, ce qui est faisable, là où il y a une équivalence ou pas. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un processus qui va prendre des années, des décennies. En fait, il s'agit d'engager les régulateurs à enclencher cette démarche. Alors, ils vont le faire sur 9 secteurs industriels sur lesquels on pense que cette coopération réglementaire est plus facile. L'ambition, là, de l'accord final, serait de pouvoir, dans ces 9 secteurs, dès une ratification éventuelle de l'accord, pouvoir mettre en œuvre déjà une reconnaissance mutuelle. Mais sinon, ça va prendre des années. Donc, sur la question de la transparence, je pense qu'il faut honnêtement saluer les efforts de la Commission européenne, de la nouvelle, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Il y a eu un vrai changement de politique. Face à la pression, absolument. Il y a eu une pression très forte, société civile, de différents partis.
Du Parlement européen.
Il y a une très forte attente. Maintenant, beaucoup de choses sont sur la table publique, on va dire, sur le site internet de la Commission européenne. On trouve énormément de choses, que ce soit les notes de position, les textes de négociation côté européen. Maintenant, ce qu'il va falloir voir aussi, c'est la façon dont les parlementaires nationaux vont dans ces champs de lecture et vont étudier les textes, parce que ce sont des textes effroyablement techniques et complexes, et qu'il va surtout falloir aller regarder de plus près et travailler sur le dossier.
Et Christophe Quarez, revenons sur le rôle de la société civile. Dans l'avis du Conseil économique et social, vous demandez un rôle accru de la société civile, un droit de regard. Est-ce que vous pensez obtenir quelque chose de ce côté-là?
Mais compte tenu des événements et de la mobilisation de la société civile sur ce problème de transparence, l'histoire d'un tableau de bord nous permettra d'y voir clair sur les chapitres par chapitre, les avancées ou les difficultés, etc.
Mais vous voulez plus encore.
Un statut d'observateur à définir. Mais regardez ce qui s'est passé pour la COP21.
Oui,
pour nous, c'est l'exemple, la conférence climat, qui s'est matérialisée par un accord au mois de novembre dernier à Paris. Dans l'esprit des négociations, il y avait un statut qui était donné aux sociétés civiles d'observateurs, plus ou moins. Et cette transparence permet, évidemment, il ne s'agit pas de mettre la société civile aux tables de négociation, mais qu'il y ait une façon ou d'une autre qu'on trouve, et ça permettrait de rassurer, parce que ce qui se passe en ce moment, toutes les inquiétudes, elles viennent du fait que on considère que c'est pas assez transparent. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'ils font dans notre dos?
On imagine le pire.
Et que monsieur Mathias Fekel l'a dit tout à l'heure, et que les lobbies ont accès à beaucoup de dossiers, beaucoup d'informations. Tout le monde s'inquiète. Parce que quand on parle de convergence réglementaire, si tout le monde est d'accord pour avoir une réglementation commune sur les pare-chocs des véhicules ou les codes couleurs des câbles électriques, ok. Mais quand on parle des normes, des résidus de pesticides, c'est un autre problème.
Autre affaire, ouais.
Et donc là, il s'agit d'être vigilant parce qu'on a des seuils complètement différents.
Voilà. On va y revenir dans quelques minutes. On va juste passer une petite page d'information, revenir à l'actualité. On se retrouve pour la suite de notre débat dans Carrefour de l'Europe.
Thank you. Europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Sophie Malibaud.
Guillaume Meunier.
Nous reprenons le débat en compagnie de Pervenche Berès, eurodéputée, présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen, membre de la délégation des affaires économiques et monétaires, Christophe Quarez, responsable syndical français à la Fédération Chimie Énergie de la CFDT. Christophe Quarez, que nous avons invité aussi en tant que rapporteur d'un document qui vient de sortir sur les enjeux de la négociation du projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement, à savoir l'avis rendu par le Conseil économique et social et environnemental, à la demande donc du Premier ministre Manuel Valls. Et puis avec nous également dans ce studio, Elvire Fabry, chercheure de l'Institut Jacques Delors, Notre Europe. Alors, je souhaitais qu'on parle encore un tout petit peu de la méthode de la négociation de cet accord. C'est un accord commercial, mais plus que cela, qui vise aussi les secteurs soumis à la concurrence ou non. Ça vise à permettre aux entreprises des deux côtés de l'Atlantique à pouvoir avoir accès au marché sans entrave, sans être discriminées, sans être en butte à des mesures protectionnistes non tarifaires. Il y a aujourd'hui débat sur la méthode retenue pour définir les contours de la négociation. Le Conseil économique et social et environnemental déplore que l'on n'ait pas retenu, Christophe Quarez, le principe de la liste positive. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Le problème, c'est que la méthode utilisée actuellement exclut des secteurs. Mais il peut y avoir des flous sur un certain nombre de secteurs. On pense qu'il est plus clair d'avoir une liste positive, c'est une méthode, c'est-à-dire qu'on dit clairement les secteurs d'activité qui sont concernés par le traité. Ça évite des flous, notamment dans des pans de secteurs qui sont à la moitié publics, à moitié privés. Et c'est là toutes nos craintes, dans les secteurs de la santé, par exemple, dans les secteurs de l'éducation, on peut avoir des pans de secteurs qui sont normalement des secteurs publics, mais qui pourraient éventuellement, s'ils ne sont pas exclus très précisément, et la meilleure façon de les exclure, c'est de dire concrètement, positivement, quel secteur on est, donc par définition, les autres n'y sont pas, pour être rassurés sur l'avenir de ces secteurs.
Alors, Elvire Fabry, cette méthode, ça y est, elle est adoptée ou est-ce qu'elle est susceptible de changer ? Est-ce qu'il est concevable que l'on revienne à une méthode qui définisse, en fait, précisément les secteurs, sur une liste positive, les secteurs sur lesquels on va négocier ? Ou est-ce qu'on est déjà dans un processus de liste négative où on exclura ceux qu'on veut laisser en dehors de la négociation ?
À l'heure actuelle, côté européen, entre négociateurs européens et américains, il y a eu un échange d'offres, de positions. On sait que les Américains sont plus favorables à une logique de liste négative, où ils ne font que mentionner un certain, ce qu'ils excluent de la négociation. Et on voit que c'est une logique moins restrictive qu'une liste positive. Il me semble qu'à l'heure actuelle, la question n'a pas encore été tranchée, de savoir ce qui serait adopté. Le Parlement européen, en juillet dernier, dans le cas des lignes rouges sur lesquelles vous avez voté pour délimiter ce qui était attendu dans la négociation, a émis le souhait que l'on adopte un système hybride avec une liste positive pour l'ouverture des marchés et une liste négative pour le traitement national. Et ce serait actuellement, c'est la position que la Commission européenne devrait chercher à défendre. Mais on n'a pas de visibilité encore sur ce qui serait décidé.
Pervenche Berès, députée donc socialiste, vous en faites un cheval de bataille ?
Oui, nous, la délégation socialiste française, on a mené cette bataille dans le groupe socialiste, au sein de la commission INTA. Pour nous, cette affaire de la liste positive est une affaire tout à fait essentielle. Parce que Elvire Fabry a eu raison de dire qu'il s'agit d'une question qui se pose notamment dans le domaine des services. Mais derrière, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. L'enjeu, c'est aussi la question des services publics.
Il n'y a pas de consensus en France sur cette question ?
Moi, je crois que la position défendue par la France, elle est favorable à la liste positive. Parce que sinon, on voit bien qu'il y a toujours des effets de grignotement. On a l'impression qu'on a mis en avant un principe de protection des services publics. Et en réalité, sans liste positive, il y a un risque de rattrapage. Mais puisque vous êtes sur la question de la méthode, nous, on a une autre préoccupation qui est quand même aussi la question des études d'impact. Or là, bien sûr, c'est difficile de connaître l'impact d'un accord tant que l'accord n'est pas conclu. Mais en même temps, on voit bien que sans une étude d'impact réelle, secteur par secteur, pays par pays, Il y a beaucoup d'illusions qui peuvent être vendues au motif qu'un accord de ce type favoriserait la croissance, la création d'emplois. Il faut dire où, combien et pour qui, parce que sinon...
Elvire Fabry, vous qui
êtes... un peu.
Oui, vous êtes chercheuse, vous vouliez réagir sur cette question.
Juste un petit point sur la question des services publics. Il faut noter quand même qu'en mars 2015, la commissaire au commerce et son homologue américain... On fait une déclaration, et ça n'est pas innocent qu'ils l'aient fait ensemble, pour préciser que les accords commerciaux ne peuvent pas concerner les services publics, ne peuvent pas concerner la volonté des États de maintenir des services publics, d'en élever le niveau de qualité, voire, s'ils ont privatisé certains services, de les rendre publics à nouveau. Mais sur la question des estimations, c'est une question essentielle. Mmh. À mon sens, il faut prendre avec beaucoup de précautions... D'une part, les estimations qui ont été faites jusqu'à maintenant, celles qui peuvent être encore menées à l'heure actuelle. Parce que, en effet, comme vous le disiez, tant qu'on ne sait pas quels sont les termes de la négociation, les variables sont énormes. Il y a un rapport qui a été publié par le département d'État américain sur le volet agricole, qui montre que les bénéfices seraient beaucoup plus importants côté américain que côté européen. Mmh. Attention, parce qu'il faut bien regarder de près ce rapport, il se fonde sur un scénario très ambitieux de négociations dans lesquelles les tarifs douaniers sont largement supprimés en matière agricole, alors que c'est là qu'on retrouve les pics tarifaires.
Oui. Notamment sur la viande.
La coopération réglementaire serait poussée très loin, alors qu'on vient de l'aborder précédemment dans le débat. Elle risque d'être beaucoup plus restreinte dans ce domaine-là qu'on ne pense. Les Américains sont très inquiets du déficit de leur balance commerciale sur le volet agricole avec l'Union européenne.
De manière générale, de toute façon, l'Europe a 6 milliards d'excédents dans son commerce avec les États-Unis. Donc
absolument.
Le rééquilibrage voulu par les Américains ne va pas favoriser les Européens.
Oui, mais les négociateurs européens ne sont pas là pour se laisser faire. Ils ne sont pas là pour laisser pour vendre le marché agricole aux Américains. Et c'est un des irritants forts de cette négociation. Mais ça va être un rapport de force serré. Donc une estimation comme celle qui a été faite côté américain, elle n'a aucune valeur parce qu'elle reprend leur scénario de négociation et pas du tout le scénario européen.
Cela dit, du côté européen, on a quand même une structure tout à fait remarquable comme MOMAGRI, qui est un think tank, un cercle de réflexion sur les questions agricoles, qui dit très bien que c'est pas sur ce volet-là que les Européens peuvent beaucoup gagner dans la négociation. Et on a de manière offensive un vrai sujet, qui est celui des indications géographiques, qui sont tout à fait essentielles pour les Européens et qui ne sont totalement refusé par les Américains. Or, tout ce volet agricole, pour l'instant, n'est pas rentré dans le cœur de la négociation. Ce qui prouve bien, d'ailleurs, qu'on est en train de garder beaucoup des sujets les plus critiques pour la fin de la négociation. Je ne sais pas qui a déterminé cette méthode. Mais
quitte éventuellement à les exclure de la négociation ?
Si, du côté américain, si, pour les raisons qu'a dit Elvire Fabry, si on sort tout le volet agricole, c'est comme si du côté européen, on sortait le secteur automobile, ce qu'on appelle le calendrier offensif de part et d'autre. La substance de l'accord sera vidée.
Les Américains ne vont pas marcher. Il y a un autre sujet qui cristallise les inquiétudes, c'est le volet consacré à la protection des investisseurs, autrement dit le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. La crainte, c'est de voir des tribunaux arbitraux imposer leurs décisions au profit de grands groupes, au détriment des États et des législations nationales. Les très grosses sociétés sont déjà bien armées juridiquement et puis remportent de plus en plus de procès contre les États. Alors écoutez ce qui se fait déjà en la matière. On n'a pas donc attendu le traité transatlantique. C'est le plus de Carrefour de l'Europe signé par Maria Afonso.
Dans les accords commerciaux internationaux, le mécanisme d'arbitrage n'est pas une pratique nouvelle. Si la Commission européenne a inclus ce dispositif dans le TTIP, c'est pour permettre à l'Europe de protéger ses entreprises. Néanmoins, les États membres de l'Union européenne soumettent l'existence de ces tribunaux d'arbitrage au droit de leur pays de faire valoir leur intérêt général. Suzanne Georges, présidente d'honneur de l'organisation non gouvernementale Attac France, dénonce les pratiques existantes et craint que le TTIP ne les systématise.
Sous un traité bilatéral, l'Équateur a été attaqué par Occidental Petroleum, la compagnie de pétrole qui a dit « nous voulions forer ». Dans un endroit en Équateur, l'État nous a dit non, on porte plainte parce que nous avions le droit de supposer que nous pouvions forer n'importe où dans ce pays. Le gouvernement dit mais non, c'est une zone écologique protégée, désolé. Ben non, le pays c'est le pays et nous avons le droit de forer. Alors, résultat, 1,7 milliard de dollars accordés à Occidental Petroleum, et c'est aux citoyens équatoriens de payer. Ah, c'est pas le plus gros. La compagnie suédoise Vattenfall, qui s'occupe de distribution d'électricité, a dit à l'Allemagne, quand elle a dit « mais nous n'allons plus faire de nucléaire », Vattenfall dit « ah, ça va entamer nos profits futurs » et nous demandons 4,7 milliards d'euros. Alors, pas décidé encore. Mais il y a de grandes chances que, comme Vattenfall avait le droit de s'attendre à un environnement légal et stable, qu'ils aient gain de cause, on ne sait pas. Veolia, la compagnie française, a porté plainte contre l'Égypte parce que l'Égypte a augmenté le salaire minimum. Non, mais ça me fait... Je commence à rire quand je dis ça parce que c'est tellement invraisemblable qu'on se dit, mais c'est pas possible, on peut pas dire à un État souverain, vous pouvez pas augmenter le salaire minimum. Mais ils l'ont fait. Mais ça aussi, c'est pas décidé. Mais c'est tout de même des atteintes constantes à la démocratie.
Pour répondre aux inquiétudes de l'opinion publique, Bruxelles envisage de créer une instance permanente pour régler les litiges commerciaux suite à la mise en place du traité transatlantique.
Comme Maria Alfonso le disait, la Commission européenne réagit. On essaye d'éviter ce type d'abus où les contribuables se retrouvent à payer lorsque les investisseurs attaquent les États. Est-ce que l'idée de cette cour permanente a une chance de succès? Est-ce que les États-Unis pourraient se plier à ce type de mécanisme, Elvire Fabry?
Écoutez, c'est vrai que ce projet de cour permanente proposé par la Commission européenne et qui était très largement inspiré d'une proposition franco-allemande est intéressant parce qu'il répond à toute une série de critiques qui étaient soulevées à propos de ce mécanisme de règlement qui repose sur un arbitrage international. Il permet d'avoir des juges permanents, des mécanismes transparents, un système de cour d'appel notamment. Et là, récemment, la Commission européenne revient un petit peu en position de force dans la négociation en ayant proposé cette solution alternative aux Américains parce qu'elle a réussi à l'inscrire dans l'accord bilatéral avec le Vietnam qui a été signé en décembre et puis plus récemment en février 2016 également à substituer le mécanisme qui était dans l'accord bilatéral, inscrit dans l'accord bilatéral avec le Canada,
oui,
par un même projet de cour permanente. Montrant qu'il y avait une appétence d'autres pays dans le monde pour adopter un même système et qu'on pourrait s'avancer à travers ce projet transatlantique et d'autres accords vers un projet de cour internationale.
Mais je vous interromps parce qu'on a le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekl, qui évoque cette proposition et notamment ce qui se passe avec le Canada. Matthias Fekl.
Alors avec le Canada, moi quand j'ai été nommé, les négociations étaient closes sur cet accord et moi j'avais identifié un point qui était inacceptable, c'est la question de l'arbitrage qui fait couler beaucoup d'encre à juste titre, c'est la question des tribunaux privés pour régler des litiges avec des scandales absolument insupportables dans ce domaine-là, de conflits d'intérêts, de manque de transparence. C'est un sujet pour l'avenir, c'est un sujet pour ma génération politique de voir comment après 30 années de dérégulation, de néolibéralisme, de laisser-faire, laisser-aller et aussi de prise de pouvoir par des intérêts privés sur souvent même les États et leur capacité à édicter, à faire respecter des règles, comment nous revenons à des règles, à de la transparence et à tout simplement le fait de faire prévaloir des choix démocratiques. Et le Canada, sur cette question-là, a accepté de rouvrir les travaux. Moi, j'avais proposé, il y a maintenant un an et demi bientôt, l'idée que les tribunaux privés soient remplacés par une cour publique de justice commerciale internationale, avec des règles claires, avec l'interdiction d'attaquer des choix démocratiques, des choix de politique énergétique, la souveraineté alimentaire, des choix de politique de santé, et avec des règles de déontologie pour ceux qui jugent.
Christophe Quarez, l'avis du CES évoque cette proposition. Vous aussi, vous êtes optimiste sur la possibilité de voir l'élaboration de ce genre d'instance?
Oui, on a évidemment travaillé les exemples cités dans le reportage précédent sur les scandales de certaines décisions ou même de demandes.
C'est édifiant.
À mobiliser, c'est édifiant. Et Matthias Fekl l'a bien rappelé aussi, ça pose un vrai souci de légitimité démocratique des décisions prises.
Parce qu'il parle de conflits d'intérêts.
Des conflits d'intérêts.
Parce que les juges ne sont pas...
Les juges sont souvent... Bah non, parce que c'est un milieu très fermé, très ce sont des spécialistes. Et souvent, ce sont des avocats des multinationales qui se retrouvent à leur tour juges. Et donc, il peut y avoir des conflits d'intérêts.
Chaque parti peut désigner ses propres juges,
absolument,
d'une certaine manière.
Et donc, de ce point de vue...
permanent.
Et puis en plus, jusqu'à présent, la définition est extensible. Et là où on doit progresser aussi, quand on parle de notion d'expropriation indirecte, c'est assez large. Donc il faut aussi restreindre les motifs de recours pour avoir vraiment éviter les scandales qu'on a connus. Et donc de ce point de vue, la proposition européenne va dans le bon sens, de notre point de vue, et surtout si elle permettra à terme d'arriver à une juridiction internationale. Mais on doit avoir quelques éléments supplémentaires qui sont notamment du point de vue du CESE, le fait que la composition de cette cour au niveau européen soit par des juges publics, comme le dit Mathias Fekel, et des juges des pays membres de l'Union européenne. Et pour éviter ces conflits d'intérêts dont on vient de parler, et qu'on est vraiment là, qu'on puisse rassurer les opinions publiques et sociétés civiles sur ce qui peut se passer. Et donc c'est un élément pour nous important, et quand les juges seront des juges pris dans les magistratures publiques de l'Union européenne, je pense qu'on aura fait un grand pas.
Père Vange-Pérez ?
Là-dessus, il faut quand même expliquer aux auditeurs pourquoi est-ce que cette question se pose. Au point de départ, pourquoi est-ce qu'on a inventé ces mécanismes ? Parce que quand une multinationale voulait investir dans un pays dont la juridiction ou le système judiciaire était balbutiant, il fallait quand même un minimum de sécurité juridique pour que l'investisseur puisse prendre le risque d'aller dans tel ou tel pays.
Donc ça se déroulait au sein d'accords bilatéraux d'investissement.
Oui, mais parce que pour protéger l'investisseur dans un pays dont le système juridique n'était pas stable. Mais ça peut, entre guillemets, se comprendre quand on est dans un système balbutiant. Entre deux grandes démocraties comme l'Union européenne et les États-Unis, ça ne tient pas la route. Et si on va jusqu'au bout, les exemples que vous avez cités, on pourrait très bien imaginer que demain, une entreprise américaine qui ait développé une technologie en termes de gaz de schiste et qui veuille venir s'installer en Ardèche se voit opposer un refus de concession et attaque la France au nom de notre préférence collective. Je tire un peu le trait. Mais c'est pour dire comment est-ce qu'à travers de tels règlements, la logique de l'investissement pourrait être protégée en dehors de nos préférences
collectives. Troisièmement, c'est quand même... je voyais Elvire Fabry réagir. Vous ne pensez pas que ça peut aller jusque-là?
Mais je pense que c'est une question très sensible. C'est la question qui a suscité le plus de débats jusqu'à maintenant. Sur cet enjeu, il faut voir qu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre préserver la capacité de réglementation des États, qui est fondamentale, tout le monde en convient, et assurer un cadre le plus stable possible pour les investissements étrangers, pour les investisseurs étrangers. Juste à titre de mention, un contre-exemple des exemples qui ont été évoqués par Suzanne Georges, et c'est celui des investisseurs dans les éoliennes espagnoles qui pouvaient bénéficier de subventions données par le gouvernement espagnol. Évolution du déficit public espagnol a fait qu'avec le changement de gouvernement, ces subventions ont été supprimées. Et que ces investisseurs, qui donc investissaient dans un secteur d'énergie durable, ont fait appel à un arbitrage international pour défendre leurs droits. On avait affaire jusqu'à maintenant à une multitude d'accords bilatéraux signés par les Européens dans lesquels il y a ces mécanismes d'arbitrage international.
Ils existent.
Ouais. Ils existent. Ils étaient un peu archaïques, très imprécis sur les notions de discrimination, peu de transparence. Donc il y avait un besoin d'amélioration et pour verrouiller mieux le système, en effet, pour pas avoir des dossiers scandaleux qui se multiplient. Mais c'est déjà quelque chose que la Commission avait entrepris dans le cadre de l'accord initial avec le Canada. Il s'agit de trouver quelque chose qui soit le plus équilibré possible. Donc à travers cette cour permanente d'investissement, on remplit, disons qu'on atteint un certain nombre d'objectifs en fonction d'un certain nombre de critères. Et finalement, c'est ça. Il s'agit de mettre en place un mécanisme pour les décennies qui viennent.
Ouais, mais c'est pas gagné. Puisque
non, c'est pas gagné, mais c'est un débat tout à fait essentiel. Oui. Sinon, ces accords de troisième génération, il n'y en aura pas. La raison
et pourtant,
pour laquelle...
c'était pas inscrit dans le mandat en 2013. Enfin,
non, mais justement, c'est exactement
c'est
sur ce point
un an
que
plus
je veux.
Tard.
C'est là-dessus que je veux insister. C'est à quel point la bataille d'opinion, la mobilisation a été essentielle. Avant même la campagne des élections européennes, la Commission Commission européenne a été obligée d'ouvrir, en plus de ce qu'elle avait obtenu comme mandat de négociation, une consultation publique sur ce point. Et le résultat de la consultation a été massif. Et c'est ça qui l'a obligée à corriger le tir. Derrière, on nous avait dit aussi que sur l'accord avec le Canada, qui a été évoqué par Mathias Fekel, les choses étaient conclues et que le Canada n'accepterait jamais de réouvrir l'affaire. Or, on voit bien que finalement, la mobilisation, le fait d'installer un rapport de force qui fait que sans ça, il y avait peu de chances que l'accord passe, y compris au Parlement européen, eh bien, on a fait bouger les lignes.
Christophe Quarès.
Oui, je vais juste rajouter ce qu'on a noté dans notre avis, là. C'est que ces fameux règlements des différents investisseurs-États, ce n'est pas une fatalité. Tous les accords bilatéraux n'en ont pas. Et que même un accord entre les États-Unis et l'Australie, de ce point de vue, est assez mixte. Il n'y a pas forcément, c'est pas une fatalité. Et des pays beaucoup moins sûrs en termes de législation ou moins démocratie moins mature, pas forcément des États de droit, comme on l'évoquait, n'ont pas. En Amérique du Sud, il y a beaucoup d'accords bilatéraux. Il n'y a pas de règlement des différends en Afrique du Sud, dans d'autres pays comme ça. Donc, c'est pas forcément une fatalité.
Et donc, vous voulez dire les différends restent non réglés?
Il y a des juridictions nationales qui sont.
Des justices des pays. Des juridictions qui existent.
Qui existent partout dans le monde.
Elvire Fabry.
Alors, sur le sujet de l'accord transatlantique, on a quand même un souci spécifique avec les juges américains, parce qu'on sait qu'ils sont, dans la majorité des États, ils sont élus à l'issue de campagnes, qui sont soutenus par des gros investisseurs privés. Donc c'est là la question de la confiance qu'on peut accorder aux tribunaux nationaux américains est très relative. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas systématiquement, mais enfin, il y a quand même plus de 93%, je crois, des accords bilatéraux qui ont ce mécanisme. Donc on a intérêt à réfléchir à un système, là aussi, qui puisse s'appliquer pas simplement à l'accord transatlantique, mais également à tous les accords bilatéraux qui existent, qui sont sur la table, qui ont été signés par les États membres, et que la Commission européenne a aujourd'hui la charge d'harmoniser, parce qu'il y a des inégalités très fortes entre les différents États membres à travers les accords qu'ils ont signés avec des pays tiers.
Pervenche Pérez.
De ce point de vue-là, ce point dans la négociation avec les États-Unis est absolument critique. Parce que la Commission européenne est en bon droit de dire mais s'il n'y a pas un accord de ce type-là dans la négociation avec les États-Unis, lorsque nous négocierons des accords avec la Chine nous dira ben, « vous l'avez pas fait pour les États-Unis, donc on n'en veut pas ». Donc c'est bien entre deux démocraties matures, absolument essentiel de se servir de ce moment pour mener jusqu'au bout cette discussion. In fine, il y a un débat qui continue, parce que certains, par exemple au Parlement européen, continuent à penser que la question d'une cour permanente n'est pas la bonne solution, qu'entre système juridique mature, en dehors de l'inconvénient que Elvire Fabry dénonce du fait de l'élection d'un certain nombre de juges aux États-Unis, on devrait pouvoir faire confiance à la justice des pays. Mais en tout cas, c'est un débat sur lequel on ne peut pas passer... qu'on ne peut pas passer sous silence.
Mais alors, on voit comme ça, en étudiant ce sujet, qu'il y a de grosses différences, en fait, de société entre les États-Unis et l'Europe. On s'en aperçoit, ça saute aux yeux à cette occasion, et notamment une différence fondamentale. On a d'un côté un État fédéral, et de l'autre, une Union européenne qui n'a rien à voir, qui n'opère pas selon les mêmes règles. Or, dans le mandat, il est dit que, une fois l'accord signé, il sera mis en œuvre à tous les niveaux du gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a affaire à deux blocs tellement différents dans leur structure? Comment est-ce qu'on va régler ce type de problème, Elvire Fabry? Ce déséquilibre, en fait.
Oui, ce déséquilibre, il est flagrant, notamment quand on aborde la question de l'ouverture des marchés publics.
Voilà.
Alors, les estimations sont différentes côté américain et côté européen. Il va y avoir un intense débat autour de l'estimation de l'ouverture des marchés publics côté européen et américain, parce que l'Union européenne estime que ces marchés sont ouverts à hauteur de 85%, alors qu'ils seraient ouverts qu'à hauteur de 32% côté américain.
Oui, alors je vais citer.
Il y a des lois
on
de protection,
a le Buy American Act, qui impose au gouvernement fédéral américain l'achat de biens manufacturés aux États-Unis. On a le Small Business Act, qui réserve jusque 40% des marchés publics aux PME américaines. Et puis on a maintenant, depuis 2009, l'American Recovery and Reinvestment Act, qui est un plan de relance économique qui fait la part belle à l'acier américain, le fer américain et les autres biens manufacturés sur le sol américain. Énorme déséquilibre.
Le déséquilibre est important notamment parce que les États-Unis ont signé un accord au niveau de l'OMC sur l'ouverture des marchés publics, mais qui n'engage que le niveau fédéral, qui revient à la question que vous posiez.
Voilà.
Il n'y a que 37 États américains qui reprennent de manière volontaire cet engagement du niveau fédéral. Et c'est tout l'enjeu de cette négociation. De la même façon que l'Union européenne a obtenu vis-à-vis du Canada, qui était ouvert qu'à hauteur de 16%, pour le marché public, de ouvrir ces marchés publics à tous les niveaux, jusqu'au niveau infrafédéral et jusqu'aux municipalités. On attend dans cette négociation de pouvoir pousser très loin l'ouverture des marchés publics. On voit bien, vous évoquez Buy American Act et tous les différents actes législatifs qui ont suivi, que la question va également être très serrée. Et notamment, côté américain, ils évoquent aujourd'hui des chiffres d'ouverture qui seraient très différents, mais qui correspondent plus à les appels d'offres qui sont réellement gagnés de part et d'autre.
Oui, Christophe Quarès.
Oui, pour compléter, nous, ce qu'on a remarqué, c'est parce qu'on a fait un petit focus sur les PME par rapport à cet enjeu. C'est un peu la double peine pour les PME européennes. La double peine, d'abord, ce que vous avez évoqué, c'est que les lois fédérales en termes de normes ne sont pas forcément les mêmes d'un État à l'autre, et donc les lignes de production doivent s'adapter. Premier élément. Et deuxième élément, c'est les mesures protectionnistes dont on vient de parler, dont on n'a pas l'équivalent en Europe. L'Europe peine encore aujourd'hui à protéger ses propres entreprises et à privilégier les filières locales.
Je suis désolée, on va devoir suspendre le débat. Je dis suspendre seulement parce qu'il y aura bien d'autres occasions, on l'a compris, de reparler de ce sujet. Et oui, c'est déjà fini. Alors, je vous remercie à tous d'être venus nous rejoindre au Carrefour de l'Europe. Merci à Guillaume Munier pour la réalisation de cette émission. Pour nous réécouter, connectez-vous sur le site www.rfi.fr ou sur les applications mobiles gratuites de RFI. Vous trouverez d'ailleurs plus d'informations sur nos invités via la page Facebook Carrefour de l'Europe. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.
Priorité santé.